Chapitre 26. Des pourparlers. Montée sur marcheur, Perrine sortit du camp à la tête d'une force impressionnante et sans l'ombre d'un étendard à tête de loup. Donc, l'ordre de les brûler tous avait dû être exécuté. Dommage, parce que le jeune homme n'était plus très sûr de cette décision. Une odeur étrange flottait dans l'air, comme des relents de moisie dans une pièce fermée depuis des années. Sur la route de Jeana, Grady et Néald flanquaient Perrine. De leur odeur, il émanait de l'impatience.
« Néald, tu es sûr d'être prêt ?»
demanda Perrine en prenant la direction du sud-ouest.
« Je me sens aussi fort que jamais, Seigneur. Assez pour tuer des capes blanches, en tout cas. J'en rêve depuis longtemps. »«
Seul un fou rêve de tuer.
»« Oui, c'est vrai. Mais puis-je mentionner que... »«
Inutile de parler de ça !»
coupa Grady.
« De ça quoi ?»
demanda Perrine.
« Rien d'important. »
tenta d'éluder Grady.
« Je t'écoute !»
lâcha Perrine. Grady prit une grande inspiration et se lança.
« Ce matin, nous avons tenté d'ouvrir un portail pour envoyer des réfugiés chez eux, et ça n'a pas fonctionné. Un peu plus tôt, c'est déjà arrivé. Les tissages se délitent et disparaissent.
« Ces tissages-là seulement ?»
Néald hocha la tête.
« Oui, Seigneur. Les autres donnent les résultats habituels. »«
C'est ce que je disais, Seigneur. »
fit Grady.
« Rien de grave. Quand nous réessayerons, tout ira bien. On manque d'entraînement, c'est tout. »
En cas de retraite, lors de cette bataille, il semblait peu envisageable d'utiliser des portails. Pas avec deux achamans seulement et tant de combattants. Être privé de cette possibilité n'en était pas moins déplaisant. Et il fallait espérer que les autres tissages ne dérailleraient pas. Pour briser la charge initiale des fils et semer la panique dans leurs rangs, Perrine comptait sur Néald et Grady.
« On devrait peut-être faire demi-tour. »
Perrine bannit immédiatement cette pensée. Il avait eu un mal de chien à prendre sa décision. Penser que des humains allaient affronter des humains alors que leur véritable ennemi était le ténébreux, quelle horreur! Mais on lui avait forcé la main. Il continua d'avancer, son marteau glissé à sa ceinture. Selon Sauter, il n'y avait aucune différence avec la hache. Pour lui, toutes les armes se ressemblaient. Les gardes ailés de Mayenne chevauchaient juste derrière Perrine, leur plastron peint en rouge scintillant au soleil. On eût dit des faucons attendant de prendre gracieusement leur envol. Les soldats d'Aliandre suivaient, tels des rochers prêts à dévaler une pente et à tout écraser sur leur passage. Les gars de Deux-Rivières, avec leur arc long, seraient à la fois rapides et solides. Quant aux aïels, on pouvait les comparer à des anguilles aux dents acérées. Les matriarches, venus sans enthousiasme, faisaient penser à des nuages d'orage, bouillonnant d'une énergie tout à fait imprévisible. Se battrait-elle pour Perrine? Il n'en aurait pas mis sa tête à couper. Le reste de l'armée était moins impressionnant. Des milliers d'hommes d'âge différents et plus ou moins expérimentés. Des mercenaires, des réfugiés de Malden, des femmes inspirées par les promises et les Chafeil. Ces candidates à une formation militaire, Perrine ne les avait pas repoussées. À l'approche de l'ultime bataille, qui était-il pour débouter ceux et celles qui voulaient se battre? En ce qui concernait Fail, il avait envisagé de la laisser à l'arrière, mais il avait vite renoncé, sachant comment ça tournerait. Du coup, il l'avait placée en queue de colonne, au milieu des matriarches et de ses fanatiques, sans oublier les Aes Sedai. Perrine serra plus fort ses rênes et tendit l'oreille. Peu de réfugiés étaient équipés d'un plastron. Du coup, Arganda les avait baptisés l'infanterie légère. Le mari de Fail, lui, avait un autre nom pour eux. Des innocents avec des lames. Pourquoi le suivait-il? Ne voyait-il pas qu'ils seraient les premiers à tomber? Ces gens avaient confiance en lui. Que la lumière les brûle, ils lui faisaient tous confiance. Perrine posa une main sur son marteau et huma l'air où se mêlait l'odeur de la peur et celle de l'excitation. Le vacarme des sabots et des bottes faisait penser au ciel noir. Du tonnerre sans éclair. Des éclairs sans tonnerre. Le champ de bataille était droit devant. Une vaste prairie verdoyante, au bout de laquelle l'ennemi s'était déployé en demi-cercle. Leur cape d'un blanc immaculé, ses fils portaient des plastrons argentés polis à la perfection. La prairie ferait un très bon site pour une bataille, mais il aurait mieux valu y planter du blé. Pour comprendre un objet, tu dois comprendre ses pièces.
Et sa finalité,
ajouta mentalement Perrine. quelle était la finalité de son ancienne hache de guerre. Tuer, on l'avait conçue pour ça, et c'était le seul service qu'elle pouvait rendre. Le marteau était différent. Perrine tira sur les rênes de marcheur. Sur ses flancs, les achamans l'imitèrent, et l'entière colonne s'immobilisa lentement. Les divers groupes se rapprochèrent, et des ordres remplacèrent le bruit des sabots et des bottes. Sous un ciel de cauchemar, l'air était paisible. À cause de la poussière soulevée par ses troupes, Perrine ne réussit pas à capter l'odeur des arbres et de l'herbe. Même chose pour la sueur des soldats qui étouffaient sur leur plastron. Certains chevaux hennirent, d'autres entreprirent tout simplement de brouter. D'autres encore renaclèrent, car ils sentaient la tension de leurs cavaliers.
« Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Grady.
Les fils étaient déjà en position, avec en première ligne une formation en V de cavaliers. Leur lance levée, mais prête à se baisser pour verser le sang, ces hommes attendaient.
« Une hache de guerre ne peut que tuer, » dit Perrine. « Un marteau est capable de créer ou de tuer. C'est ça la différence. »
Soudain, ça lui parut clair comme de l'eau de roche. Voilà pourquoi il avait dû se débarrasser de la hache. Il pouvait choisir de ne pas tuer. Rien ne devait le pousser au meurtre. Perrine se tourna vers Gaul, qui n'était pas bien loin de lui, comme d'habitude.
« Je veux que les Aes Sedai et les matriarches viennent en première ligne. Ordonne-le aux sœurs, mais demande-le aux matriarches. Même consigne pour les forces de Derrière. »
Gaul courut exécuter ses ordres. Perrine se tourna vers les Capes Blanches. Si malfaisants qu'ils fussent, ces hommes s'estimaient honorables. En conséquence, ils n'attaqueraient pas avant que les forces adverses soient en position. Les matriarches et les Aes Sedai ne tardèrent pas à arriver, Fail comprise, bien entendu. Mais bon, Perrine lui avait demandé de rester avec elle. Il tendit une main, l'invitant à approcher. Les gars de Derrière vinrent former les deux flancs de l'armée.
« Gaul nous a dit que tu as été très poli, »
lança Edara à Perrine.
« Sûrement, ça signifie que tu veux de nous quelque chose que nous refuserons de faire. »
Perrine sourit.
« J'entends que vous m'aidiez à éviter cette bataille.
« Tu ne veux pas danser avec les lances ?»
s'étonna Edara.
« J'ai entendu parler de ce qu'ont fait ces hommes dans les terres mouillées. À mon avis, ils portent du blanc pour cacher ce qu'il y a de noir en eux.
« Ils sont désorientés, » répondit Perrine. « Non, beaucoup plus que ça. La frustration les ronge au nom, croit-il, de la lumière. Mais nous ne devons pas les combattre alors que l'ultime bataille se profile. Si on se massacre entre nous, les survivants perdront contre le ténébreux. »
Et Dara éclata de rire.
J'aimerais voir quelqu'un expliquer ça au Shaido, Perrine Ibarra. Ou qu'on t'ait tenu le même discours quand ces chiens détenaient ta femme.
Les Shaido méritaient la mort, fit Perrine. Ses fils, je n'en suis pas si sûr. Il suffirait peut-être de leur flanquer la trousse. Avec les Aes Sedai, je veux que vous fassiez s'ouvrir le sol devant leur armée.
Tu veux quelque chose qu'on ne doit pas vouloir, Ibarra,
dit Séonide.
Nous ne participerons pas à ta bataille.
La petite sœur verte soutint le regard de Perrine.
Il ne s'agit pas de participer, mais d'empêcher.
Dans ce cas,
fit Séonide,
j'ai peur que ça revienne au même. Si nous frappons la terre, nous utiliserons le pouvoir comme une arme. Et nous pourrions blesser ces hommes, désolé.
Perrine serra les dents, mais il n'insista pas. Les achamans et les matriarches suffiraient sûrement. Il s'adressa aux gars de Derrière.
Tom, dis aux hommes d'encocher une flèche et de se préparer à tirer.
Tam acquiesça, chargeant un messager de transmettre l'ordre. Les archers se mirent en position. La cible était bien au-delà de la portée des arcs normaux, mais avec une arme de Derrière, il n'y avait presque rien d'impossible. Perrine fit un signe de tête au matriarche, puis eut un geste à l'intention des achamans. Une seconde plus tard, le sol explosa devant les Capes Blanches. Grady et Néald firent avancer leurs chevaux. Ceux des fils se cabrèrent, et des hommes crièrent de terreur. En première ligne, certains cavaliers ne parurent pas troublés par cette démonstration de force. Contrôlant à la perfection leur monture, ce devaient être les officiers. Avec ses yeux perçants, Perrine reconnut effectivement le seigneur général. De la terre jaillit dans l'air, propulsée par de nouvelles crevasses. Sur le visage des matriarches, Perrine reconnut la concentration très particulière de femmes occupées à canaliser le pouvoir.
« Quelqu'un peut amplifier ma voix ?»
demanda Perrine.
Oui, moi, répondit Grady. Un jour, j'ai vu le MAL le faire.
Parfait,
se réjouit Perrine.
Tam, quand le pouvoir se taira, dis à tes hommes de lâcher 2 ou 3 volées longue distance. Qu'ils essaient de toucher la tranchée, juste devant nos ennemis.
Quelques minutes plus tard, les explosions cessèrent. Les archers de Deux Rivières tirèrent, le ciel bientôt obscurci, si c'était possible, par une nuée de flèches. Perrine observa les fils. Paniqués, ils avaient rompu les rangs. Un martèlement de sabots annonça l'arrivée d'Arganda. Sous son casque à plumes, le premier capitaine du Géaldan n'avait pas l'air commode.
« Que signifie tout ça, seigneur Aibara ?»
demanda-t-il, agressif.
« Tu gaspilles ton avantage, c'est tout. Une embuscade aurait tué des milliers de fils et brisé leurs charges. »«
C'est vrai, »
dit Perrine, Fail chevauchant désormais à ses côtés.
« Et ils le savent. Regarde leur ligne, Arganda. Ils sont inquiets, parce qu'ils mesurent ce qu'ils devront traverser avant d'arriver au contact avec nous. À l'aune de ma démonstration de force, ils redoutent ce que nous leur réservons quand ils attaqueront. »
« Mais c'était le maximum de ce que nous pouvons faire. »
objecta Fail.
« Toi, tu le sais, mais pas eux !»
triompha Perrine.
« Pour lancer un avertissement, qui mobilise d'emblée toute sa puissance de feu ?»
Même s'il tempêtait intérieurement, Arganda se tut. Jusqu'au fond de l'âme, ce type était un soldat. En d'autres termes, une hache. Il n'y avait rien de mal à ça, mais Perrine, lui, devait être un marteau. Alors qu'il modelait, les hommes comme Arganda tuaient.
Grady, ma voix, tu veux bien? Si notre armée m'entend aussi, ce sera parfait.
Je peux le faire, oui.
Perrine inspira à fond et parla.
Je suis Perrine Aibara,
dit-il, sa voix se répercutant dans toute la prairie.
Ami du dragon réincarné, je suis ici parce qu'il me l'a ordonné. En fait, je me dirige vers l'endroit où aura lieu l'ultime bataille. « Seigneur général, quand tu m'as demandé une rencontre selon tes conditions, je suis venu. Je te prie de me rendre la politesse et de me voir selon mes termes. Même si tu es décidé à me tuer avant que j'affronte les ténèbres, donne-moi une dernière chance d'éviter un bain de sang aujourd'hui. »
Perrine fit signe à Grady, qui dissipa le tissage d'amplification.
« Avons-nous un pavillon ou organisé des pourparlers ?»«
Au camp, oui, »
répondit Fail.
« Je peux essayer un portail. »
proposa Neald en lissant sa moustache. Enfin, les 3 poils qu'il baptisait ainsi, en cirant soigneusement la pointe.
« Fais-le !»
La chamane se concentra, mais rien ne se passa. Du coup, il s'empourpra.
« Ça ne marche pas. Ni portail, ni plateforme. »« Je vois, »
fit Perrine.
« Envoyons un cavalier. Le pavillon sera prêt en quelques minutes. J'ignore si les fils accepteront, mais au cas où, nous devons avoir tout préparé. Que Berelaine et Aliandre y soient aussi, plus quelques serviteurs avec des boissons. Qu'ils prennent les sièges et la table dans ma tente. »
Accompagné par des promises, Rob Solter, un gars de Deux Rivières, partit faire exécuter ses consignes. Les fils, eux, semblaient réfléchir à la proposition de Perrine. Parfait. Arganda et presque tous les autres officiers allèrent informer les combattants de ce qui se passait. Avec le tissage de Grady, ils avaient dû entendre, mais bon. Voyant que chacun faisait sa part du travail, Perrine se cala confortablement sur sa selle et attendit. Fail fit approcher son cheval. Dans son odeur, la perplexité dominait.
« Quoi ?»
demanda Perrine.
« Quelque chose en toi a changé. J'essaie de déterminer quoi. »«
J'hésite, »
répondit Perrine.
« En fait, je n'ai pris aucune décision pour l'instant. Mais je ne veux pas tuer ces hommes. Pas aujourd'hui. Et pas sans y être forcé. »
« Ils ne céderont pas un pouce de terrain, »
dit Fail.
« Ils t'ont déjà jugé. »
« On verra bien. »
Le jeune homme regarda le ciel, pensant à l'étrange odeur de moisi. Si on ajoutait la défaillance des portails... Dans le rêve des loups, tueurs arpentaient cette région, et il y avait eu le curieux mur de verre. Dans le vent, quelque chose semblait clocher, et l'essence de Perrine était exacerbée.
« Sois prudent, »
paraissait-il lui dire.
« Et tiens-toi prêt. »
Le marteau pouvait tuer ou créer. Mais qu'allait-il en être aujourd'hui? Perrine n'en savait rien. Et il ne frapperait pas avant de l'avoir découvert. Dans la prairie qui aurait dû être un champ de bataille, Galad regardait la tranchée creusée par le pouvoir où avaient atterri des centaines de flèches. Il s'était préparé à affronter des Aes Sedai, en d'autres termes, des femmes incapables de blesser quiconque, sauf pour se défendre ou protéger leur champion. En conséquence, il avait ordonné à ses fils de ne pas défier les sœurs, et même d'en rester le plus loin possible. Dès qu'ils en apercevaient une, ils devaient s'arrêter, hocher la tête et baisser leur arme. S'ils manifestaient clairement leur intention de ne pas les blesser, les sœurs seraient réduites à l'impuissance pendant la bataille. Beaucoup de fils de la lumière ne croyaient pas à ces fadaises. Selon eux, les trois serments n'étaient que de la propagande. Mais ils n'avaient jamais vécu à la Tour Blanche. S'ils n'aimaient pas les sœurs et ne leur faisaient pas confiance, Galad savait que les serments les limitaient bel et bien. En ronchonnant, les fils reformaient les rangs. Avec sa longue vue, Galad inspecta la première ligne d'Aibara. Des hommes en veste noire, plusieurs aïels, dont une de celles qui accompagnait le suppôt lors de leur rencontre. Une femme capable de canaliser, sans nul doute. Galad eut une vision d'horreur. Le sol explosant sous les chevaux de ces hommes, tandis qu'ils chargeaient l'ennemi. Les corps déchiquetés, le vacarme, les flèches venant peaufiner la boucherie. Bornald approcha, rouge de colère.
« Nous n'allons pas négocier, pas vrai ?»
Galad baissa sa longue vue.
« Je crains que si. »
« Nous avons déjà rencontré ce chien. Tu voulais voir ses yeux, as-tu dit, pour être sûr qu'il appartenait bien à l'engeance du démon. Bon, tu les as vus. Que te faut-il de plus ?»
Biar approcha aussi. Ces derniers temps, il agissait souvent comme s'il était le garde du corps de Galad.
« Seigneur général, dit-il, ce type n'est pas fiable. »
Galad désigna la tranchée.
« En allongeant un peu le tir, il aurait pu nous massacrer. » « Je suis d'accord avec Biar, » dit Bornald. « Il veut t'attirer dans un piège, puis te tuer pour nous démoraliser. »
« C'est possible, oui. »
Galad se tourna vers le seigneur capitaine Arnesh, qui chevauchait près de lui.
« Si je meurs, je veux que tu prennes le commandement et que tu lances la charge. Pas de quartier, surtout. Mais respectez l'ordre d'éviter les Aes Sedai. Et tuer toute autre personne qui semble canaliser le pouvoir. Il faut que ce soit une priorité. » Il se peut que nous ne comprenions pas ce qui se passe ici.
« Et tu vas quand même y aller ?»
demanda Bornald.
« Oui. »
Galad avait laissé Biar et Bornald le pousser à l'affrontement. À présent, il se posait des questions. Certes, il avait vu les yeux d'Aibara et entendu les témoignages de certains fils et de quelques compagnons du suppôt. À un moment, attaquer semblait la seule solution. Mais Aibara parlait d'or. Sur la demande de Galad, il était venu le voir. Donc, il y avait peut-être un moyen d'éviter un massacre. Galad n'y croyait pas vraiment, mais s'il restait une chance, ça valait le coup d'essayer. Les choses n'étaient pas plus compliquées que ça. Bornald ne cachait pas sa fureur. Qu'il haïsse le meurtrier de son père était normal, mais ça ne devait pas influencer les actes des fils.
« Tu peux venir avec moi, »
dit Galad en talonnant son cheval.
« Toi aussi, fils Biar. Les seigneurs capitaines, eux, resteront à l'arrière. » Éparpillé parmi les hommes. Il ne faudrait pas qu'Aibara fasse tuer tous nos officiers.
Arnesh salua son chef. À contre-cœur, Bornald vint prendre sa place sur un flanc de Galad, et Biar, le fanatisme faisant briller ses yeux autant que la haine ceux de son camarade, chevaucha sur l'autre. Ces deux hommes avaient été vaincus et humiliés par Perrin Aibara. Galad se dota aussi d'une escorte de 50 fils, qui se mirent en formation derrière lui. Quand la colonne arriva dans le camp ennemi, un pavillon très simple l'attendait. Tenu par 4 poteaux, le toit de toile était plat et il n'y avait pas de côté. Au centre trônaient 2 sièges et une petite table. Aibara occupait un des sièges. Voyant que Galad approchait, il se leva. Aujourd'hui, le colosse portait une veste noire et un pantalon marron, de bonne coupe mais ordinaire, et son marteau pendait à sa ceinture. La tenue avait quelque chose d'agricole. Décidément, ce n'était pas un homme de palais, mais de champs et de forêts. Un fermier devenu un seigneur. 2 hommes de son territoire natal, derrière lui, brandissaient leur arc long surpuissant. À ce qu'on disait, ils appartenaient à une très ancienne race de fermiers et d'éleveurs indépendants. Comme chef, ils avaient choisi Perrin Aibara, un dur parmi les durs. Galad avança en direction du pavillon. Biard et Bornald le suivirent. En revanche, les 50 fils de l'escorte restèrent en selle. Contrairement à la rencontre précédente, il y avait des Aes Sedai, 3, d'après ce que repéra Galad. Une petite kyrienienne, une mince et jolie femme en robe très simple, et une solide tarabonaise aux multiples tresses. Elle se tenait parmi les aïels affublés d'un châle, avec des promises de la lance comme garde du corps. Leur présence étayait les dires d'Aibara. Il était bien là sur ordre du dragon réincarné. La main sur le pommeau de son épée, Galad observa les autres occupants du pavillon. Soudain, il se pétrifia. Derrière la chaise d'Aibara se tenait une femme d'une grande beauté. Non, d'une extraordinaire beauté. Ses cheveux noirs semblant briller, elle portait une robe rouge assez fine pour souligner ses formes et décolletait juste ce qu'il fallait pour révéler une poitrine parfaite. Et ses yeux, très noirs avec de longs cils. Galad eut le sentiment d'être attiré par ce regard hypnotique. Pourquoi cette femme n'avait-elle pas été présente la fois précédente?
« Tu sembles surpris, »
dit Aibara en se rasseyant.
« La première dame est ici sur ordre du seigneur dragon, comme moi. N'as-tu pas remarqué l'étendard de Mayenne, au-dessus de mes troupes ?»«
Je... »
Galad n'alla pas plus loin et s'inclina devant la dame. « Berelen sur Pindrag Pyron ?» On vantait partout sa beauté, mais ce n'était pas lui rendre justice. Elle était hors du commun. Galad se força à ne plus la regarder, puis il s'assit en face d'Aibara. Il devait se concentrer sur son ennemi. Les yeux jaunes étaient toujours aussi perturbants. Croiser ce regard se révélait si étrange. Oui, cet homme pouvait être tout à fait autre chose qu'un suppôt ou une créature des ténèbres. Pourquoi tant de gens auraient-ils suivi un monstre? Et pourquoi Berelein aurait-elle été avec lui?
« Merci d'être venu, »
dit Aibara.
« Notre précédente rencontre a été précipitée. Cette fois, prenons notre temps. Tu dois savoir que l'autre femme derrière moi est Aliandre Marita Kigarin, reine du Gealdan, bénie de la lumière et protectrice du mur de Garen. »
Ainsi, cette femme majestueuse aux cheveux noirs était la reine du Gealdan? Avec les troubles que connaissait le royaume ces derniers temps, une bonne demi-douzaine d'ambitieux devaient essayer de lui voler son trône. À part ça, elle était jolie, mais passait inaperçue à côté de Berelein. Perrine désigna la troisième femme.
« Je te présente Feil Nibashere Taibara, mon épouse et cousine de la reine du Saldaya. »
La femme d'Aibara regarda Galad sans dissimuler sa méfiance. Oui, avec un nez pareil, elle ne pouvait venir que du Saldaya. Biard et Bornald ignoraient tout de ses liens avec la couronne. Deux souveraines sous le pavillon, derrière Aibara. Galad se leva et s'inclina devant Aliandre.
Majesté.
Tu es très poli, seigneur général,
dit Berelein.
Et tu t'inclines comme un courtisan. Où as-tu reçu une telle éducation?
Cette femme n'avait pas une voix, c'était une harpe vivante.
À la cour d'Andorre, madame. Je suis Galad d'Amodred, beau-fils de la défunte reine Morgaz, et demi-frère d'Elaine Trakand, son héritière légitime.
Enfin,
fit Perrine,
je peux mettre un nom sur toi. Tu aurais dû me dire ça la fois précédente.
Berelein regarda Galad dans les yeux, puis elle sourit, comme si elle voulait avancer vers lui, mais elle se retint.
Galad d'Amodred. Oui, je croyais bien reconnaître quelque chose dans ton allure. Comment va ta sœur?
Bien, j'espère. Je ne l'ai pas vue depuis un moment.
Elaine se porte à merveille,
dit Perrine.
Aux dernières nouvelles, très récentes, elle est montée sur le trône, et personne ne l'en fera descendre. Je ne serais pas surpris qu'elle épouse bientôt Rand, si elle peut le faire revenir du royaume qu'il est en train de conquérir.
Derrière Galad, Biard siffla de rage. En évoquant une relation entre Elaine et le dragon, Aibara avait-il voulu se montrer insultant? Hélas, Galad connaissait trop bien sa sœur. Très impulsive, elle n'avait pas caché être fascinée par le jeune Altor.
« Ma sœur peut faire ce qu'il lui chante, »
dit Galad, surpris de prendre si bien la nouvelle.
« Le sujet du jour, c'est toi, Perrine Aibara.
Et ton armée. »
Aibara se pencha en avant, les deux mains sur la table.
« Nous savons tous les deux que mon armée n'a rien à voir là-dedans.
De quoi allons-nous parler dans ce cas ?»
Les yeux jaunes d'Aibara se rivèrent dans ceux de Galad.
des deux fils de la lumière que j'ai tués il y a 2 ans. Depuis, dès que je fais un pas, j'ai l'impression qu'un groupe de capes blanches me colle au basque.
Un meurtrier si franc à propos de son crime, ça ne courait pas les rues. Entendant dans son dos le bruit de l'acier qui coulisse dans du cuir, Galad leva une main.
« Fils Bornald, contrôle-toi !»«
Deux fils, engeance du démon !»
cracha Bornald.
« Que fais-tu de mon père ?»«
Je n'ai rien à voir avec sa mort, Bornald. Jofram a été tué par les Seanchaniens. Pour un fils, il semblait plutôt raisonnable, même s'il prévoyait de me faire pendre. »
« Pour les meurtres que tu viens d'avouer !»
fit Bornald en foudroyant Galad du regard. Le fils de Jofram rengaina son épée, mais il était rouge de colère.
« Ce n'étaient pas des meurtres !»
dit Aibara.
« Ils m'ont attaqué, et je me suis défendu. »«
Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté !»
objecta Galad. « À quel jeu jouait cet homme ?»«
Des témoignages sous serment attestent que tu t'es caché sous une saillie rocheuse. Quand les fils t'ont demandé d'en sortir, tu as jailli comme un fou, et les a attaqués sans provocation.
Sans provocation? Si, il y en avait une. Ils avaient tué un ami à moi.
La femme qui t'accompagnait? D'après ce qu'on m'a dit, elle s'en est tirée sans une égratignure.
Galad avait été choqué, en entendant de la bouche de Bornald le nom de cette femme. Egwene Alvéré. Encore une qui appréciait la compagnie des voyous.
Pas elle, mais un ami appelé Sauteur. Et après, un de ses compagnons. C'était des loups.
Aibara s'enfonçait.
Tu ferais avec des loups, connus pour être des créatures des ténèbres?
Ils n'ont rien à voir avec les ténèbres. À vrai dire, ils détestent autant que nous l'engeance du démon.
Et comment le sais-tu?
Aibara n'en dit pas plus. Mais il y avait plus. Selon Biard, cet homme était capable de courir avec les loups et de diriger une meute. Ce témoignage avait pesé lourd dans la décision de Galad sur la bataille. Et apparemment, Biard n'avait pas exagéré. Mais il était inutile de s'apesantir là-dessus. Aibara avait avoué ses crimes.
« La mort de deux loups n'est en aucun cas une circonstance atténuante pour toi, » dit Galad. « Beaucoup d'hommes tuent des loups qui menacent leur troupeau ou s'en prennent à leur vie. Ces fils n'avaient rien fait de mal. En conséquence, tu as bel et bien commis 2 meurtres. »
« C'était plus compliqué que ça, »
dit Aibara.
« Mais je doute de pouvoir t'en convaincre. »«
Nul ne me persuadera d'une chose qui n'est pas vraie. »«
Et tu ne me laisseras jamais tranquille, »
soupira Aibara.
« En d'autres termes, nous sommes dans une impasse. »« Tu as avoué des meurtres qu'un serviteur de la lumière tel que moi ne peut pas laisser impuni. »«
Je ne renoncerai pas. »«
Tu comprends pourquoi je ne voulais pas négocier. »«
Et si j'acceptais d'être jugé ?»
demanda Aibara. Sa femme lui posa une main sur l'épaule. Il mit la sienne dessus, mais ne se détourna pas de Galad.
Si tu te livres et acceptes notre punition...
La peine de mort, pour être clair. À coup sûr, Yeux Jaunes se déroberait. Au fond du pavillon, des servantes venaient d'arriver pour préparer de l'infusion. De la tisane, avant une guerre. À l'évidence, Aibara n'avait aucune expérience de ce genre d'événement.
« Je ne parle pas de punition, »
dit-il,
« mais d'un procès. Si je suis acquitté, je pourrai partir en paix. Et tu ordonneras à tes hommes de ne plus me harceler. En particulier Bornald et son compagnon, qui grognent comme des chiots devant leur premier léopard. »«
Et si tu es condamné ?»«
Ça dépendra. »«
Ne l'écoute pas, seigneur général !»
s'écria Biard.
« Par le passé, il a promis de se livrer, mais n'a pas tenu parole. »«
C'est faux !»
dit Aibara.
Vous n'avez pas rempli votre part du marché.
Je...
Galad tapa sur la table.
Nous perdons notre temps.
Il n'y aura pas de procès. Pourquoi? Tu parles de justice et tu me refuserais un jugement équitable?
Et qui serait le juge?
Demanda Galad.
Me ferais-tu confiance?
Bien sûr que non. Mais Aliandre pourrait tenir ce rôle. C'est une reine.
Qui compte au nombre de tes partisans? Sans vouloir t'insulter, elle t'acquitterait avant même d'avoir entendu les preuves. Même Dame Bérélaine ne serait pas... adéquate. Moi, je lui ferais confiance. Mais je parie que mes hommes ne me suivraient pas.
Lumière, que cette femme était belle. Alors qu'il la dévorait des yeux, Galad la vit rougir, tout en lui rendant ses regards. Rosir, plutôt, mais il était sûr d'avoir capté quelque chose. D'ailleurs, il sentit qu'il s'empourprait aussi.
« Les Aes Sedai ?»
proposa Aibara. À grand-peine, Galad se détourna de Berelaine et foudroya son interlocuteur du regard.
« Si tu crois qu'un jugement rendu par la Tour Blanche conviendrait à mes hommes, tu connais mal les fils de la lumière, Perrin Aibara. »
À son regard dur, il apparut que Yeujaun savait ça, et qu'il le déplorait, parce qu'un procès aurait été une fin parfaite à tout ça. Une servante approcha de la table avec deux gobelets d'infusion. C'était inutile, car sa négociation venait de se terminer.
« Tu avais raison, »
soupira Aibara.
« Cette rencontre n'aura servi à rien. »«
C'est faux, »
dit Galad en jetant un coup d'œil furtif à Berelaine.
« En tout cas, pour moi. »
Désormais, il en savait plus sur les points forts d'Aibara, et ça lui servirait pendant la bataille. De toute façon, il avait eu raison de s'assurer qu'un affrontement était incontournable. Et il était encore assez tôt pour qu'on en finisse aujourd'hui. Cette femme, Berelaine, il fallait qu'il cesse de la regarder, mais c'était difficile. Galad se leva, s'inclina devant Aliandre, puis devant Berelaine. Ensuite, il se tourna pour partir. Mais il entendit un petit cri. Bizarrement, c'était la servante qui l'avait poussé, celle qui apportait l'infusion. Galad lui jeta un coup d'œil. C'était Morgaz. Le jeune homme se pétrifia. Les meilleurs maîtres d'armes du monde lui avaient enseigné à ne jamais être surpris, par rien et par personne. Mais là, leurs précieuses leçons volaient en éclats. Cette femme était bien sa mère adoptive. Ses cheveux blonds tirant sur le roux, il jouait avec quand il était petit. Et ce visage si beau et si puissant. Les yeux non plus ne trompaient pas. C'était ceux de la reine d'Andorre. Un spectre ? Galad avait entendu des histoires sur ce sujet. Des morts ramenés à la vie par le contact du ténébreux. Mais dans l'assistance, personne ne semblait mal à l'aise, et cette femme paraissait très réelle. Timidement, Galad lui toucha la joue. La peau était douce et chaude.
« Galad, que fais-tu ici et comment ?»
Morgaz se tut quand Galad la prit dans ses bras aux grandes dames de toutes les personnes présentes. D'ailleurs, elle-même sursauta.
Elle était vivante. Mais par quel miracle ?
J'ai tué Valda pour venger ma mère, qui n'est pas morte. Donc je suis un criminel, un suppôt à ma façon.
Non, Valda avait mérité la mort pour les outrages qu'il s'était permis d'infliger à Morgaz. Était-ce bien la vérité ? Des fils le lui avaient assuré, mais ils étaient également certains du décès de la reine. Il faudrait faire le tri de tout ça plus tard. Avant tout, il devait cesser de se ridiculiser devant ses hommes. Il lâcha sa mère adoptive, mais elle le retint par un bras. Jamais il ne l'avait vu si désorienté. Aibara s'était levé. Les yeux ronds, il contemplait la scène.
« Tu connais Megdine ?»«
Megdine ?»
Morgaz portait une robe toute simple et pas l'ombre d'un bijou. Essayait-elle de se cacher sous l'identité d'une servante ?«
Megdine ?» ?»« Aibara, c'est Morgaz Trakande, protectrice du royaume et du peuple et haute chère de la maison Trakande. » En d'autres termes, ta reine.
Un grand silence suivit cette révélation. Perplexe, Aibara se gratouilla la barbe. Stupéfiée ou furieuse, sa femme regardait Morgaz avec des yeux écarquillés.
Megdine,
fit Aibara.
C'est vrai?
Morgaz leva les yeux et soutint le regard du jeune homme. Comment pouvait-on ne pas voir ce qu'il y avait de régalien en elle?
Je suis Morgaz Trakande,
dit-elle.
Mais j'ai abdiqué en faveur d'Elaine. Avec la lumière pour témoin, je jure de ne jamais revendiquer la couronne.
Galad approuva du chef. Oui, il comprenait à présent. Elle avait eu peur qu'Aibara se serve d'elle pour nuire à Andorre.
« Je vais te conduire dans mon camp, mère, »
dit-il, sans quitter Aibara des yeux.
« Là, nous parlerons des mauvais traitements que t'a fait subir cet homme. »
Morgaz foudroya son fils du regard.
« Un ordre, Galad ? N'ai-je pas mon mot à dire ?»
Le front plissé, le jeune homme se pencha vers sa mère et souffla.
« Il détient d'autres prisonniers ? Quel moyen de pression a-t-il sur toi ?»
Morgaz secoua la tête avant de répondre.
Cet homme n'est pas ce que tu crois, Galad. Il est brut de décoffrage, et je n'aime pas ce qu'il fait au royaume. Mais ce n'est pas un allié du Ténébreux. J'ai plus à craindre de tes associés que de Perrin Aibara.
Oui, elle avait des raisons de se méfier des fils. D'excellentes raisons.
Viendras-tu avec moi, noble dame? Je jure que tu pourras revenir ici quand tu voudras. Quoi que t'aies fait les fils par le passé, tu ne risques plus rien. Je m'y engage.
Morgaz hocha la tête.
Un moment, dame Audred,
lança Aibara. Galad se tourna, la main de nouveau sur le pommeau de son épée. Pas une menace, juste un pense-bête. Sous le pavillon, les gens commençaient à murmurer entre eux.
Oui?
Tu voulais un juge, pas vrai? Accepterais-tu que ta mère en fasse office?
Galad n'hésita pas un instant. Bien sûr que oui. Depuis l'âge de 18 ans, Morgaz portait la couronne. Et il connaissait sa sagacité et son équité. Une femme juste. Dure, certes, mais juste. Les autres fils l'accepteraient-ils? Morgaz avait été formé par les Aes Sedai, et il la voyait comme l'une d'entre elles. Un gros problème. Mais si ce choix dénouait la situation ici, il pourrait sans doute les faire changer d'avis.
J'accepte, oui. Et si je m'engage ainsi, mes hommes me suivront.
Je l'accepte aussi,
fit Aibara. Les deux hommes se tournèrent vers Morgaz. Dans sa robe jaune ordinaire, elle semblait être la reine du monde.
Perrin, si je préside à ton procès, ne t'attends pas à de la clémence de ma part. Mais Jean et moi, tu nous as accueillis quand nous en avions besoin, et je t'en serai toujours reconnaissante. Mais si je t'estime coupable, ça n'influera pas sur mon verdict.
C'est ce que j'attends,
répondit Aibara, et il avait l'air sincère. Seigneur général, souffla Biar à l'oreille de Galad. J'ai peur que ce soit une parodie de procès. Il n'a pas dit qu'il se soumettrait à la sentence.
Non, je ne l'ai pas dit,
confirma Aibara. Galad se demanda comment il avait pu entendre.
Quel poids ça aurait? Vous me prenez pour un suppôt et un meurtrier. Pour que vous me fassiez confiance, il faudrait que je sois votre prisonnier, et il n'en est pas question.
Tu vois,
triompha Biar à voix haute.
C'est joué d'avance.
Galad croisa de nouveau les yeux jaunes de Perrin.
Un procès nous fournira des bases légales,
dit-il.
Je commence à y voir clair, fils Biar. Nous devons prouver nos dires, sinon nous ne vaudrons pas mieux qu'Asunawa.
Mais ce procès ne sera pas équitable.
Galad se tourna vers Biar.
Mets-tu en doute l'impartialité de ma mère?
Le fils secoua promptement la tête.
Non, seigneur général.
Galad regarda de nouveau Aibara.
Je demande à la reine Aliandre d'attester que ce procès sera considéré comme légal dans son royaume. Si c'est ce que veut le seigneur Aibara, je l'attesterai.
Sans enthousiasme, semblait-il.
C'est ce que je désire, Aliandre,
confirma Perrin.
À une seule condition, que Dame Audred relâche tous mes amis. Qu'il garde les équipements, si ça lui chante, mais qu'il me rende mes compagnons, comme il me l'a promis lors de notre précédente rencontre.
D'accord,
dit Galad.
Ce sera fait dès que le procès aura commencé. Je le jure. Quand auront lieu les débats?
Laisse-moi quelques jours pour me préparer.
Disons trois,
fit Galad.
Le procès aura lieu sous ce pavillon.
Amène tes témoins,
conclut Aibara.
Je serai là.